Thank you, ladies and gentlemen. If you're in the gold hall.
Merci, mesdames et messieurs. Si vous êtes dans cette salle, vous allez assister à la séance pour l'amélioration du RAA, l'accord sur l'accréditation des registraires. Je suis présidente du comité consultatif ATLAC et on va traiter une série de choses. J'ai un panel pour discuter des amendements du RAA. Steve va parler dans un moment. Et pour vous donner une idée de ce que nous faisons cet après-midi, nous sommes des représentants de l'activité d'application de la loi et on va entendre les différentes questions ayant trait à ce sujet, l'amendement du RAA, de la perspective du registraire. Et la séance aura les gens dans la salle auront la possibilité de poser des questions ainsi que les gens qui suivent les discussions en ligne. Alors, nous avons encore pas mal de choses à faire et nous avons déjà 10 minutes de retard et je vais donner la parole tout de suite à Steve. Merci beaucoup, Cheryl. Je suis Steve Metallis. Ce groupe pour la propriété intellectuelle, on a présenté un rapport préliminaire, une équipe conjointe de rédaction avec des gens du GNSO et du At-Large. Ça a été un bon effort conjoint en vue d'identifier des objectifs communs. Et on a soumis un rapport préliminaire pour commentaire public. Vous avez l'information où vous pouvez le trouver et vous pouvez commenter jusqu'au 9 juillet. Et on invite vos commentaires. Alors, comment en est-on arrivé ici? Vous vous souvenez, en mars 2007, le président avait invité à une révision en profondeur du RAA. Suscité par un événement et une nouvelle forme d'accord avait été élaborée et ça a été adopté par le Conseil GNSO en mars 2009. Quelqu'un s'est exprimé aujourd'hui en suggérant que tout le monde était satisfait de ce résultat. Certes, ce n'était pas le cas. Certains estimaient que le nouveau RAA n'allait pas suffisamment loin. Et quand le GNSO l'a adopté, il a indiqué qu'il l'avait adopté, mais qu'il souhaitait aller plus avant et envisager des amendements au RAA et une charte de droits et responsabilités des registraires. Et c'est ce mandat. On a commencé à travailler à l'automne 2009. Et comme je l'ai dit, les résultats viennent d'être publiés. On avait deux tâches avec deux sous-groupes. Moi, je présidais le sous-groupe B. Le président de l'autre sous-groupe est parmi nous et il pourra y répondre. Alors, la charte sur les droits et responsabilités. L'accord sur l'accréditation des registraires comporte une disposition disant qu'il y a des droits et des responsabilités des registraires et tous doivent C'est cela, il n'y a pas eu de déclaration. La sous-groupe a donc formulé un projet de charte et c'est une annexe au rapport préliminaire et reprend les dispositions dans le RAA en langage plus clair, tel que le projet préparé par le personnel. Et les participants à ce sous-groupe ont travaillé également sur une charte d'aspiration soumise par la communauté at large, décrivant certains droits devront être conférés aux registraires. L'écran suivant vous montre ce qui est repris là, et c'est également dans le rapport. Et il est dit ce qui devrait être inclus et qui pourrait faire l'objet de futurs amendements. mais cela reflète l'accord d'accréditation des registraires. Alors, au sous-groupe B, on avait deux tâches. L'une était d'identifier les sujets pouvant faire l'objet d'amendements du RAA, et l'autre était de recommander un processus pour évoluer vers des amendements, vers un RAA amendé. On a eu de très très bonnes contributions. Alors, les principales sources sont reprises à l'écran. Le personnel de l'ICANN a fait une contribution détaillée reflétant les conditions du personnel qui s'occupe du respect. 6 ou 7 agences d'application de la loi de par le monde ont fait des suggestions très détaillées. Vous l'entendrez par la suite dans le panel. Un groupe de travail de la communauté des droits de propriété et Danny Younger, un membre d'AtLarge, a fait également des suggestions très détaillées. Voilà les principales sources sur lesquelles nous avons travaillé. Nous les avons organisées en matrice avec une liste de sujets hautement prioritaires. Alors, il y a des choses que vous ne trouverez pas dans cette liste et je vais vous expliquer pourquoi. Certaines des suggestions envoyées portaient sur les dispositions du RAA. En fait, elles portaient plutôt sur les normes pour obtenir l'accréditation en premier lieu, due diligence, enquête sur des entités voulant être accréditées comme registraires. Et beaucoup de suggestions ayant trait à l'application de la loi avaient pour objet cela. Alors, une fois que vous êtes accrédité, quelles sont les responsabilités que vous avez au titre de l'accord? Nous n'avons pas inclus ceci dans notre liste, mais le personnel de l'ICANN révise les demandes pour être accrédité comme registraire. Ce sera disponible bientôt et nous espérons que nombre des suggestions que nous avons faites ici seront reprises là. Et puis, deuxièmement, à mesure que nous avons repris la liste de suggestions, il y a un nombre de cas où les gens ont dit que ce n'est pas vraiment quelque chose qui doit faire l'objet d'un amendement. Ça, c'est un outil qui permet une meilleure application, un meilleur respect de l'accord. Donc, c'était plutôt une question qui avait trait au respect de cet accord, plutôt qu'aux dispositions purement contractuelles. Et nous nous sommes penchés là-dessus et nous avons pris l'avis du personnel qui travaille sur le respect. Des questions qui nous semblent importantes et que nous n'avons pas inclus dans notre liste d'éléments hautement prioritaires. Ce sont plutôt des questions d'application au respect de l'accord en vigueur. Il y aura une phase ultérieure. On voit où les nouveaux outils fournis par la version 2009 de l'accord aident à traiter de ces problèmes. Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça pourrait revenir à l'ordre du jour pour amendement du RAA. Enfin, on nous a demandé de signaler toute question qui pourrait faire l'objet de l'élaboration d'une politique sur base de consensus plutôt que inclusion dans le contrat. On en a identifié, on y travaille dans le processus de formulation politique et on les a donc éliminés de notre liste. Mais la liste était encore longue. La première fois qu'on l'a parcourue, on s'est dit « Oh là là, il y en a trop là qui sont hautement prioritaire. » Donc, on l'a révisé une deuxième fois et on a abouti à la liste que vous connaissez avec 12 éléments repris à l'écran. Alors, je ne vais pas les évoquer en détail. On n'a pas le temps de le faire. Je serai disposée à répondre à vos questions, mais je vous encourage à lire le rapport où tout ceci est détaillé avec des références aux matrices et toutes les références. Donc là, il y a beaucoup plus de détails. Mais je vais quand même en mentionner certains. Interdiction de cybersquattage de registraires. Alors, il y a interdiction puisqu'il y a l'UDRP, mais on sait que les registraires eux-mêmes font ça par l'utilisation de domaines dont ils sont propriétaires. Et on pense que ça doit être clairement interdit dans le RAA, et s'il y a comportement répétitif, le registraire doit perdre son accréditation. Ça, c'est la première question. Et puis, il y a les activités conduites malveillantes. Les registraires ont une obligation, de par le contrat, d'enquêter tout signalement de parties tierces de comportement malveillant. Et ils doivent désigner un point de contact techniquement compétent sur ces questions de comportement malveillant, disponible 24 heures sur 24. Par exemple, quand il y a des activités de hameçonnage ou de appâtage. Et ainsi, on peut se tourner vers quelqu'un. Les catégories 4, 5 et 6 traitent essentiellement de confidentialité, de services d'enregistrement de procuration. Et ici, c'est une meilleure régulation de ces services avec un cadre que l'on trouve dans le RAA. Les conditions, par exemple, selon lesquelles vous pouvez vous adresser à l'opérateur d'un proxy service avec suffisamment de preuves de comportement malveillant et dommageable. Le registraire doit être divulgué ou le détenteur de la licence doit être divulgué. Ou bien il y a une responsabilité légale. Donc, ceci est effectué par des alter-ego. Il pourrait y avoir une série de règles. D'autres sont opérées par des entités avec lesquelles les registraires n'ont aucun contact. Et là, à ce moment-là, les règles seraient différentes. Mais c'est l'idée maîtresse de tout ce qui se trouve dans cette catégorie. Ensuite, il s'agit de définir les circonstances dans lesquelles le registraire doit annuler l'enregistrement s'il y a des données WHOIS erronées qui ont été fournies. Le registraire peut annuler dans ces cas-là, mais on avait le sentiment qu'on devrait préciser quand ils doivent le faire. Alors la priorité 8, c'est le processus d'enregistrement. Est-ce que le registraire doit vérifier l'information de contact de l'enregistrant? Nous avons estimé qu'il était important de voir s'il y avait des normes préalables pour aider la vérification. Alors le respect du PCA serait nécessaire chaque fois que les registraires acceptent des cartes de crédit pour l'enregistrement. Le 9, alors le registraire est responsable de l'accès de revendeurs. On n'a pas défini le terme de revendeur et les registraires ont indiqué que là, ça pourrait poser problème. Nous, thème prioritaire. Point suivant, alors meilleure divulgation des registraires pour que les gens puissent y avoir accès. Donc le nom de leur personnel, donc la bonne foi. Et puis une plus grande divulgation des affiliés et des accréditations multiples. Ça, c'est important. Et puis, enfin, dernier point sur cette liste, c'est préciser les responsabilités des registraires s'agissant des procédures UDRP. L'idée d'avoir des délais plus clairs. Les registraires ont des obligations au titre de la procédure UDRP, mais imposer des délais pourrait être une bonne chose. Ce qu'on n'a pas pu inclure dans cette liste, c'est ce qu'on appelle les priorités moyennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup de gens dans le sous-groupe estimaient que c'était important, mais ils n'ont pas réussi à nous convaincre que ça devait être vraiment dans les hautes priorités. L'autre sous-groupe, B, a recommandé les étapes suivantes du processus. Et comment amender le RAA. Et il y avait un soutien pour inclure ces éléments sur la liste. Alors, ça ne va pas être définitivement inclus dans le RRR, le RAA amendé, mais c'est en tout cas quelque chose que l'on étudiera. On n'a pas eu l'unanimité. Il y avait de nombreux un accord sur de nombreux éléments sur comment le faire. Alors négocier cet accord, c'est ça implique de faire rapport au public de façon régulière, hein, à fournir des documents pour que l'on puisse obtenir les contributions du GNSO, de la LAC et autres. Alors les catégories sur lesquelles il y a plus ou moins accord au sein du GNSO. Le degré de consensus, le degré de soutien. Le rapport indique qu'il y a un fort dans l'inclusion de ces négociations. Pour l'inclusion dans ces négociations d'observateurs représentant les intérêts des parties, des non-parties concernées. Et bien, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Les registraires, les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, les gens qui luttent contre le hameçonnage, ceux qui luttent contre les comportements malveillants, les agences de respect de la loi, et donc les personnes représentant ces intérêts devraient être observateurs, même s'ils ne sont pas partis à la négociation en tant que telle. Il y avait une opposition des registraires comme quoi ils ne devraient pas être observateurs aux négociations. Et dans la salle, il devrait y avoir l'ICANN et les représentants des registraires. Et beaucoup de gens s'y sont opposés parce qu'ils ont estimé que ça allait aboutir à un résultat non satisfaisant. Certains dans l'équipe estimaient que il n'y avait pas un soutien suffisamment fort. Les participants devaient avoir un statut plein et entier. Alors, j'ai mentionné ce qui faisait l'objet d'un soutien fort. Après, il y a la question de savoir qui sera dans la salle et à quel titre. Alors, ce groupe A et B, voilà, j'ai dit l'essentiel. Alors, je ne vais pas intervenir longtemps. Je vais maintenant me tourner vers l'équipe chargée du respect, Bobby Flame, Paul Hall, Luc Berns, Jaak van Os, et j'espère avoir prononcé vos noms correctement. Jaap van Os, il y aurait une erreur de nom. Et je viens de l'Asie du Pacifique, donc je vous présente mes plus plates excuses. Bobby Flame, je travaille pour le FBI. Aujourd'hui, nous vous remercions de l'opportunité d'être ici. Vous avez plusieurs représentants des agences. Alors nous, il y a le DEA et toute une série d'agences gouvernementales en charge du respect de la loi d'Allemagne, de Chine, de Belgique, d'Indonésie. Il y a Europol, également plusieurs représentants de l'Union, des agences de l'Union européenne. Et nous en sommes remis aux collègues de l'UE et de la Belgique, puisque c'est le pays hôte. Alors, les recommandations de notre groupe font partie d'une initiative exhaustive pour que ceci soit réalisé à l'échelle mondiale de façon très réactive et préventive. Il ne s'agit pas de traduire les criminels en justice, mais vraiment de ces activités. Nos recommandations ont été publiées et comportent deux parties. L'une concerne le RAA, l'autre partie concerne les recommandations de due diligence et comment les accréditations, et surtout avec les nouveaux GTLD. Donc, voilà. Ça, c'est du côté des noms de domaine. Du côté IP, on a également créé des groupes de travail avec les RAA pour qu'on traite l'allocation des adresses à IVP 4 et 5 et 6. On a créé un groupe transnational pour traiter de ces questions, nom de domaine d'un côté et IP de l'autre. Donc c'est une approche vraiment inclusive. Nos recommandations se fondent sur le fait que nous voyons une vague de criminalité avec des dommages qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars. Que ce soit du hameçonnage, de la pornographie infantile, des questions de sécurité nationale. Ceci se fonde sur des cas réels. Simplement le constat de ce qui se passe et ce que l'on essaye d'empêcher. On a tout repris ici. On y reviendra un peu par la suite. Nous avons également reçu des courriers de soutien d'autres organisations avec des recommandations. Jihai Tech Crime, Interpol, Messaging Anti-Abuse. Le plan d'action de Londres et s'est débattu également avec le GAC. Alors c'est quelque chose avec le GAC. C'est quelque chose qui a été débattu depuis des années. Et on s'était dit que c'était le moment de faire entendre nos préoccupations et que l'on fasse partie du processus pour agir au sein du système de l'ICANN. Nous travaillons avec le groupe de travail RAA, avec le CCNO, avec les registraires. CCNSO, donc nous sommes très réactifs dans le système avec les registraires, avec l'ICANN directement, afin que nous puissions être les mieux informés et faire le meilleur travail possible. Nous avons une responsabilité de protéger le public et c'est notre seule préoccupation. Et c'est ce que nous tentons de faire ici. Et c'est ce que reflètent ces recommandations. Alors, on a parlé du DNSEC, c'est une autre mesure préventive. C'est ce que nous essayons de faire à différents niveaux et nous voulons le faire bien. Les recommandations ont mis en lumière certaines choses, notamment au sujet du RAA. On veut s'assurer que les informations sont valables pour s'assurer que les criminels ne se saisissent pas du système des noms de domaine à leur avantage. Voilà, je vais maintenant donner le micro à mon collègue Paul Hoare. Ce sera Luc, de la police fédérale belge.
Yes, good afternoon.
Bonjour. Donc, je joue sur mon terrain. Donc, l'unité fédérale de liens informatiques fait partie de la police judiciaire fédérale en Belgique et moi, je me concentre sur la cyberdélinquance organisée et sur les attaques des infrastructures importantes. Donc, je n'ai que 5 minutes, donc je vais commencer avec les conclusions pour être sûr que nous puissions entendre ces conclusions. Nous soutenons les amendements, mais nous voulons aussi montrer que nous avons déjà des bonnes pratiques dans ce domaine. Nous devons travailler ensemble. L'exécution de la loi, les registres, les registraires et l'ensemble du secteur pour résoudre nos problèmes mutuels, c'est la meilleure manière d'avancer. Au lieu de nous préoccuper uniquement de l'exécution des prescriptions juridiques, alors les bonnes pratiques, en Europe, nous travaillons avec les registres DNS.be et ils ont un autre cadre juridique, que ce soit légalement pour Euridi et d'autres conditions pour DNS.be. Nous travaillons en tant qu'agence responsable de l'application de la loi et lorsque nous détectons des noms de domaines qui éveillent nos soupçons, nous nous adressons à eux avec toujours un ordre du parquet fédéral demandant leur coopération. Alors, nous avons eu un réseau de zombies qui utilisait 13 nom de domaine et en fait nous nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait pas 13 mais 165. Nous avons pu les bloquer immédiatement et cette partie du réseau de zombies ne fonctionnait plus. Je sais qu'ils utilisent un grand nombre de noms de domaine mais c'est en tout cas une façon de semer le trouble dans leur infrastructure, de perturber leur infrastructure. J'ai eu beaucoup de remarques de personnes qui disaient bloquer des noms de domaine pourrait être un problème, nous pourrions être responsables. Combien de fois nous sommes-nous trompés lorsque nous avons bloqué des choses 2 fois sur les plusieurs centaines de noms de domaines qui ont été bloqués. Lorsque nous avons contacté ces personnes, ils nous ont dit « Eh bien, merci de nous informer que notre nom de domaine est l'objet d'une fraude dans un but délictuel. » Et ils étaient de nouveau en fonctionnement dans les heures qui ont suivi. Alors, nous ne nous limitons pas seulement à identifier dans cet espace, ce que nous faisons, c'est que nous mettons fin à ces activités délictuelles et nous empêchons d'autres victimes. Si nous empêchons des personnes d'aller sur des sites de hameçonnage, ou si nous pouvons faire en sorte que les criminels utilisent les systèmes informatiques des utilisateurs finaux simplement en perturbant les réseaux zombies, c'est suffisant. C'est déjà quelque chose que nous voulons faire. Si nous pouvons déjà perturber ces infrastructures délictueuses, nous sommes déjà loin. Nous ne limitons pas à gérer les incidents. Et n'oubliez pas que nous voulons aussi protéger l'identité des citoyens dont l'identité est l'objet d'une fraude à travers l'enregistrement de noms de domaine. Ce n'est pas toujours Mickey Mouse et Disney World. Nous avons eu des décideurs politiques célèbres, des personnes célèbres en général, des joueurs de hockey, des musiciens, etc., dont l'identité était l'objet d'une fraude, et nous voulons travailler là-dessus aussi. Alors, dans la plupart des cas, lorsque nous demandons qui enregistre un nom de domaine, il s'agit très souvent de sites web d'extrémistes ou de pornographie infantile, mais les sites web de hameçonnage créent bien plus de dégâts économiques, parce que on s'en sert pour des fraudes dans le domaine des transactions bancaires ou pour avoir des accès à l'administration de systèmes. Et la maintenance des réseaux zombies, l'adressage dans ces réseaux est basé sur Fast Fluxing qui a besoin de beaucoup de noms de domaine. Donc qu'est-ce que nous avons vu lorsque nous avons fait nos recherches? C'est qu'ils enregistrent des noms de domaines qui n'ont pas de sens, quelques caractères et quelques chiffres qui n'ont aucun sens. Et très souvent, il y a des campagnes commerciales, des fausses campagnes commerciales qui disent « nous vous offrons un an d'enregistrement gratuitement ». Ils utilisent cela uniquement pendant quelques jours. Et donc pour eux, c'est fantastique parce qu'ils l'ont eu gratuitement. Alors, ce qui pose des problèmes aussi, ce sont les enregistrements par procuration. Nous ne pouvons plus avoir accès à l'identité du registrant. Et très souvent, si les gens payent pour leur enregistrement, ils utilisent des données de carte de crédit volées. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir identifier qui est derrière ces enregistrements de nom de domaine ou au moins trouver une piste. Si on n'a pas le nom réel, peut-être on peut disposer d'autres informations qui peuvent nous mener vers ces délinquants. Donc, bloquer ces noms de domaine perturbe l'infrastructure. Alors, la vitesse de livraison des données et la vitesse de blocage des noms de domaine est absolument fondamentale. Si ça prend 3 semaines pour un nom de domaine, alors ce n'est plus nécessaire, parce qu'ils ne l'utilisent que pendant quelques jours. Et c'est là que nous devons travailler ensemble pour pouvoir faire ça très rapidement. Et maintenir le coût aussi bas que possible, aussi bien pour les autorités judiciaires que pour le secteur. Maintenant, la véritable trace dans la vie réelle et dans le cyberespace, si c'est une fausse identité, si nos procédures n'ont pas été trop efficaces, nous avons la véritable identité, ensuite la fausse identité qui pourrait être l'identité d'une autre victime qui était l'objet d'une fraude. Mais autres traces peuvent être éventuellement les noms de numéros de email qui ont été utilisés pour confirmer un enregistrement ou éventuellement les adresses IP qui peuvent nous mener à quelqu'un dans le cyberespace. L'équilibre entre l'identification et la vie privée oh, dommage, je travaille sur mon laptop et j'ai le bouton en main. Donc vous avez probablement tout cela sur votre site web et vous pourrez tous voir ma présentation par la suite. Donc l'équilibre entre la nécessité d'identification et la vie privée, donc dans un cadre juridique, il est clair que la police ne peut pas simplement aller vous rendre visite et vous demander des informations. Ils doivent travailler dans le cadre juridique, dans le cadre légal, les autorités légales qui peuvent le faire proposeront un document. Donc, mais protéger la vie privée des personnes, c'est bien, mais cacher leurs informations, Et leur faire payer pour ça, c'est un modèle d'activité. Je ne sais pas si l'Union européenne l'accepterait. Faire en sorte que les autorités judiciaires payent pour ces données. Là, j'ai que responsable de l'application de la loi. La semaine dernière, nous avons eu un cas d'abus d'enfants. Nous avons dû identifier 40 000 noms de domaine. 40 000. Si vous nous faites payer, disons, $10 pour un seul nom de domaine, l'identification d'un seul nom de domaine, nous sommes en faillite avant même de pouvoir commencer les poursuites. Et lorsque, dans le passé, nous avons eu la possibilité pour avoir l'identification pour chaque nom de domaine, nous pouvions travailler rapidement. Et maintenant, avec ces enregistrements par procuration, c'est devenu très difficile de courir après ces noms de domaine parce que les procédures juridiques internationales sont très lentes. Donc, très souvent, nous devenons inefficaces. Et ensuite, pour clôturer ma présentation, j'ai entendu beaucoup de monde parler de notre responsabilité si nous bloquons des noms de domaine. Il se peut que nous bloquions un nom de domaine et que cela crée des dégâts, mais si nous ne bloquons pas des noms de domaine, les infrastructures délictueuses continuent à fonctionner et causent énormément de dégâts économiques, de préjudices économiques au secteur, et finalement c'est ce que nous voulons absolument éviter. Merci pour votre attention. Merci, Bobby. Y a-t-il d'autres orateurs dans le groupe qui souhaitent prendre la parole? Oui, Paul. Paul Service, organisation qui lutte contre le crime organisé au Royaume-Uni. Juste quelques points. Certains d'entre vous m'ont entendu auparavant. Alors, les personnes à ma droite et à ma gauche ont parlé des dégâts fiscaux résultant d'activités délictuelles. Ce n'est pas seulement fiscal. Si nous pouvons éviter des souffrances humaines si nous pouvons éviter les souffrances humaines, c'est beaucoup plus important encore que les dégâts financiers. Alors, la cybersécurité est au programme de tous les gouvernements du monde. Alors, au cours de ces 12 derniers mois, c'est devenu une priorité classée de plus en plus haut sur la liste par tous les gouvernements du monde. Si vous étiez à Séoul lors du forum sur la fraude au DNS, j'ai parlé du forum de la fraude DNS sur le besoin du secteur de trouver des solutions à certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai dit qu'il y avait une fenêtre d'opportunité qui n'était pas infinie pour que nous puissions le faire avant que les gouvernement n'adopte des réglementations, des législations et n'essaye de régler le problème par des lois, mais parce que très souvent les lois qui sont adoptées ne résolvent pas ce problème. Donc la fenêtre, c'était celle-là, maintenant elle se ferme. Donc moi j'encouragerais l'engagement de tous ceux qui ont un intérêt, parce que cette fenêtre se referme actuellement et ce n'est pas le programme de quiconque dans ce panel. Luke Appleby a démontré que le crime organisé en matière de DNS est un facilitateur clé pour les attaques. Il y a trop de preuves qui le démontrent pour vous les mentionner au cours de ce panel, mais je suis sûre que mes collègues ici, tout comme moi, seraient très heureux de partager notre expérience dans le domaine. Il y a de très bonnes pratiques parmi certains registres. J'ai certains registraires. Alors, en ce qui concerne les amendements du ORA que nous avons proposés, je pense que le secteur a besoin de normes minimales obligatoires parce que sinon les bonnes pratiques que certains registres et registraires ont mis en œuvre ne font que déplacer les criminels qui se rendent qui vont vers ceux qui ont des régimes moins stricts. Alors, votre client... Alors, connaître sa clientèle, ce n'est pas un phénomène nouveau pour le commerce électronique ou dans le monde du commerce. Il y a de nombreux exemples dans le secteur de bonnes pratiques abordables qui sont déjà en place et qui permettent de connaître les clients, de connaître la zone de chalandise. C'est la précision des détails de l'enregistrement qui est importante. Il y a des avantages pour tout le monde et du point de vue de l'exécution de la loi. Pour repérer les personnes qui sont des menaces sur Internet, nous devons savoir qui ils sont. Ou en tout cas, nous devons avoir une idée d'où commencer à les chercher. Et le dernier point serait par rapport au respect de la vie privée, la liberté de l'Internet. Je sais que tout le monde est préoccupé par le maintien de cette liberté et nous n'essayons certainement pas de limiter cette liberté. Luc a parlé de l'enregistrement par procuration. Les dispositions de vie privée sont intégrées dans ces amendements lorsqu'il s'agit d'enregistrement par procuration. La vie privée des personnes est très importante. Les individus en ont besoin. Nous respectons pleinement cette ces enregistrements par procuration, c'est que ceux qui ont cette procuration devraient être repérables. Donc il devrait y avoir des procédures qui permettent de retrouver la trace de ces procurations. Voilà, je vais donner la parole maintenant à d'autres collègues, mais en tout cas nous ne voulons certainement pas ralentir la croissance ou étouffer la croissance d'Internet, nous voulons introduire plus de protection. Je vais essayer de ne pas votre nom encore une fois. Merci beaucoup. Je m'appelle Adam Mirianski. Ce n'est pas si compliqué, mais bon, c'est assez inhabituel probablement pour vous. Moi, je m'occupe du cyber, de la cyberdélinquance à la Commission européenne, dans la Direction générale Justice, Liberté et Sécurité. Alors, dans 2 semaines, cette DG va être divisée en 2 DG, affaires intérieures et justice. Alors, je voulais simplement dire une chose ou deux et vous remercier d'ailleurs de m'avoir invité à ce panel. Je voulais vous dire quelques petites choses en matière de recommandations. L'Union européenne pense que le monde en ligne ne doit pas être un territoire sans loi et nous voulons insister sur la nécessité du respect de la loi et sur le respect des droits fondamentaux de tous les utilisateurs. La Commission européenne exprime son soutien aux amendements recommandés aux accords d'accréditation des registraires, le RAA, et le message fort que c'est la recommandation de ces amendements envoie au monde, ceux qui, en faisant fonctionner un site web, prestent des services, partagent des informations ou des produits, interagissent de toutes les manières imaginables avec le public. Dans ce cas-ci, un nombre inconnu de personnes au niveau mondial peuvent bénéficier de leurs activités et en même temps porter la responsabilité de leurs actions. Donc ils doivent respecter la loi et les droits des autres personnes, des autres utilisateurs ou des autres tierces parties. Les autorités d'application de la loi, responsables de l'application de la loi doivent pouvoir remplir leurs fonctions, doivent pouvoir assurer les éléments de base pour garantir ces objectifs et tous les utilisateurs potentiels de l'Internet doivent pouvoir identifier et contacter les personnes responsables d'un domaine sur le web et les autorités responsables de l'exécution de la loi doivent pouvoir obtenir des informations supplémentaires en vertu des conditions qui sont dans la loi dans l'exercice de l'autorité officielle qui leur a été dont ils sont investis. Alors, la précision des informations traitées par ICANN, en particulier les informations de contact pour l'attribution des adresses IP ou les administrateurs des noms de domaines, des domaines de premier niveau qui se trouvent dans la base de données WHOIS jouent un rôle essentiel à ce niveau. À la suite de ces amendements recommandés par les responsables de l'exécution de la loi, donc au RAA, qui a été, comme on l'a mentionné, qui ont été soutenus par le GA, et l'entièreté de la Commission européenne serait une étape très importante, mais ce ne serait pas la seule démarche que l'Union européenne attend de l'ICANN dans toutes les questions concernant la collecte, le traitement et la diffusion de données personnelles. Le respect des règles sur la protection de données n'est pas seulement une exigence imposée sur ceux qui sont responsables du contrôle des données, c'est une condition de succès et un moyen d'assurer le libre flux d'informations. Cela inclut une définition claire de l'objectif pour le traitement de données personnelles. Ces données doivent être suffisantes, pertinentes et pas excessives en ce qui tenant compte des buts spécifiés. Elles doivent également être précises et actualisées. Ces principes doivent être clairement reflétés dans les RAA. Merci beaucoup. Merci. Nous passons maintenant à la vision des registraires. Bonjour, je m'appelle Messine Kell, je suis président du groupe de registraires et à ma droite, vous avez mon collègue McKellan d'Irlande, Michel Nayland de Black Knight en Irlande. Merci pour cette occasion de discuter des registraires et des amendements potentiels au RAA. Je voulais simplement élever la discussion d'un petit cran, si vous me le permettez, parce que je pense que cela vaut la peine de planter le décor pour expliquer pourquoi nous essayons de collaborer ici. Cette discussion sur les amendements du RAA où les nouvelles politiques potentielles se concentrent sur la solution de certaines difficultés. Les registraires, clairement, n'ont pas de problème avec la solution de ces difficultés. Nous sommes confrontés à ces difficultés nous-mêmes tous les jours. Nous voulons résoudre les problèmes, nous voulons attraper les délinquants. Nous pensons qu'effectivement, il faut que la loi soit respectée. Nous voulons éviter les activités illégales, par quelquefois nous sommes nous-mêmes les victimes de comportements criminels ou délictueux. Maintenant, le RAA pourrait être un outil pour résoudre ces problèmes ou d'autres avenues, d'autres moyens pour être disponibles également. Le RAA est quelquefois vu comme un outil politique alors qu'en réalité, j'étais très gratifiée d'entendre certaines des personnes ici de la communauté responsable du respect de la loi dire que peut-être il y a une idée qui pourrait être un groupe de travail responsable du respect de la loi et les registraires et les registres. Je pense que c'est une idée absolument exceptionnelle et nous devrions la mettre en œuvre. Nous devons envisager toutes les options possibles pour résoudre le problème de la délinquance en ligne, pas seulement à travers les accords d'accréditation. Donc, il est important de s'en souvenir également lorsque nous parlons de changement, un accord juridique entre deux parties, les documents qui définissent la manière dont deux parties interagissent dans un cadre commercial et aussi la base technique de ces documents. De légers changements peuvent avoir des impacts opérationnels importants. Et lorsque par impact opérationnel, je veux dire les coûts que cela représente pour mettre ces choses en place. Combien de personnes devons-nous engager pour assurer la mise en œuvre de ces changements? Quels sont les coûts pour les consommateurs qui sont là, tous là, pour les clients qui sont tous là pour faire de l'Internet un endroit meilleur? Quels sont les coûts qui seront peut-être transmis aux registrants? Quel impact cela peut-il avoir sur la sécurité et la stabilité, non seulement de l'Internet, mais les efforts des agents responsables de l'application de la loi, nos efforts pour diriger nos affaires? Non. Sur les efforts des registres de bien gérer leurs entreprises, il est important que les registraires assurent que la communauté tienne compte de ces accords et que ces accords sont très bien sur le papier, ils sont très bien, les intentions sont très bien fondées, mais quelquefois il faut faire attention aux détails. Ils doivent être pris en considération de manière intégrale pour que l'impact sur toutes les parties soit pris en considération. Donc les registraires voudraient détailler davantage ce que sont leurs objectifs en discutant des RAA. Il est important de comprendre de manière nuancée et documentée quels sont les problèmes. Nous devons avoir autant de détails que possible par rapport à ces problèmes. Il y a un mois, j'ai eu une discussion très productive avec Paul et Bobby. Et j'ajouterais que c'est la première fois que les autorités judiciaires et les registraires avaient la possibilité de discuter en profondeur de certains des problèmes qui sont rencontrés par la communauté responsable de l'exécution de la loi dans une tentative de prévenir les activités délictuelles. Mais cela nous a donné une idée du type de problème de la communauté judiciaire, des autorités judiciaires. Nous avons invité les agences qui représentent les autorités judiciaires à nous présenter leur point de vue pour que tous les registraires puissent mieux comprendre ce point de vue. Nous voulons aussi explorer de manière constructive les méthodes pour résoudre ces problèmes en utilisant des moyens multiples, peut-être. S'agit-il d'un PDP qui passe par le processus du GNSO ou s'agit-il peut-être d'une opportunité pour les registraires et les autorités judiciaires ou d'autres parties prenantes de collaborer? Nous voulons encourager une communauté, la communauté elle-même, à s'adresser aux registraires, à leur communiquer leurs préoccupations et examiner ce processus, voir ce processus comme un processus de collaboration. Comme je l'ai mentionné, la stabilité opérationnelle et la sécurité est fondamentale non seulement de l'Internet, mais dans les affaires sont des considérations importantes. Il est important aussi que nous puissions compter sur un environnement raisonnable pour pouvoir fournir des produits et des services à nos clients, que nous puissions prendre des décisions, gérer nos ressources, etc.
So here's what the registrars are doing.
Donc voici ce que les registraires font. Nous travaillons avec des parties multiples, de multiples parties prenantes pour comprendre quels sont leurs points de vue, comme je l'ai mentionné. Nous avons une discussion très productive avec le FBI et avec l'unité des crimes graves du Royaume-Uni. Nous avons une très bonne discussion hier avec le GAC. Nous avons discuté avec ALAC, avec les registres, avec le regroupement de la propriété intellectuelle, avec le personnel de l'ICANN. Nous avons tous travaillé en bonne foi, de bonne foi, pour comprendre quelles sont les préoccupations de la communauté, comment les registraires peuvent contribuer à résoudre ces préoccupations. Comme je l'ai mentionné, les amendements doivent prendre en considération toutes les parties pour assurer que les conséquences pour des propositions soient bien comprises. Celles qui seront immédiatement visibles et celles qui ne seront peut-être pas immédiatement visibles. Les registraires pensent que le RA est encore un peu vague et probablement inadéquat en termes de comment réaliser le processus d'amendement. Et il est probablement nécessaire de mettre cela à jour, d'actualiser cela. Nous sommes en pourparlers avec la communauté sur la manière de le faire. Donc voici le processus actuel. Il est important également de se souvenir que les registraires, en vertu de l'accord de 2009, pratiquement 90% des noms de domaine actifs actuellement, et des enregistrements de noms de domaine actifs sont couverts par l'accord de 2009. Bon, nous voudrions que ce soit 100%, évidemment. 90%, c'est pas mal. Nous avons encore 4 ans à partir de la date de la première signature de cet accord d'accréditation des registraires avant que d'autres politiques puissent être contraignantes si cet accord est amendé. Il est important d'utiliser le temps que nous avons en reconnaissant qu'il est important d'agir rapidement afin d'assurer l'application de la loi. Mais il est important aussi de prendre le temps à notre disposition pour comprendre clairement l'impact que cela va avoir sur chacun dans la communauté. Oui, merci.
Vous avez tous fini. Michaelis ne prend pas la parole. Quand je ne peux pas répondre à une question, Michaelis vient à mon secours. Michaelis. Je crois que je préférerais attendre avant de donner, de recueillir les questions de la salle. J'ai raté ce que vous avez dit. Je me suis trompée. Cheryl, c'est très simple. Mason et moi avons décidé que ce serait plus simple si Mason allait évoquer la question. Moi, je suis disposée à répondre à toute question. Mais j'avais pas saisi ça. Au bout de la table. Alors maintenant qu'on a terminé dans les temps, on va maintenant recueillir les questions. Il y a 2 micros et je vous invite à vous présenter, à exprimer au nom de qui vous prenez la parole. Vous pouvez le faire à titre individuel. Oui, Garth Bruin, président de newjohn.com. Et si quelqu'un veut consulter notre site internet, vous voyez qu'on vient de publier le rapport et l'audit sur le respect, sur les révisions des activités illicites au sein du GTLD. Et il y a beaucoup d'amendements RAA qui traitent de l'accès WHOIS et de la fiabilité. Et si vous lisez le rapport, eh bien, vous pouvez voir que 80 registraires sont actuellement en train de bloquer l'accès WHOIS. Ça inclut des ports 43 et de l'accès Internet. Nous avons 10 registraires qui ont entré des données WHOIS fausses sur leur propre domaine. Et leur domaine est en fait enregistré par d'autres parties de recourir à des services de confidentialité des registraires. En fait, ce sont des fantômes. On n'arrive pas à les trouver. Et on a essayé vraiment de les trouver, mais ils n'existent pas. C'est une impasse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les agences d'application de la loi d'abord de rassembler les informations qui ne sont fiables, et on voit que ce trou noir augmente et que personne ne parvient à obtenir de l'information. Et on aimerait vraiment que ces problèmes soient corrigés avec le RAA actuel. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Donc la structure de base pour le respect. Et puis il y a beaucoup de détournement ou de contrefaçon de médicaments sur l'Internet. Et ça, c'est des milliards et des milliards de dollars. Et ça, c'est l'activité de certains registraires. Ils ne fournissent pas des sites, mais ils fournissent la structure, l'épine dorsale pour ces activités. Des noms de serveurs, des transactions, de traitements, des sites, tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors, une question. J'aimerais savoir pourquoi Monica utilise des service de confidentialité pour le registraire de leur propre domaine. Merci, Garth. Alors, personne dans ce panel ne se précipite pour traiter de cette question. Alors, on va recueillir peut-être une autre question. Oui, merci. Richard Cox, du Spanhouse Project. Vous aurez probablement entendu parler de ce projet pour les bonnes raisons. Nous traitons de cybercriminalité depuis que l'Internet existe. On est probablement la première agence d'enquête les pourriels ou les spams et le cybercrime sont convergents, sont un seul problème. Nous ne sommes pas surpris que vous ayez des préoccupations quant à la situation du RAA. Et nous soutenons les propositions pour l'application de la loi. Mais en l'état de la situation, vous avez entendu les préopinants. Ils ont également la sensation qu'il y a bien des choses qui sont nécessaires. Mais alors quand vous avez un programme troyen et vous allez accidentellement sur un site pour de bonnes raisons et que ça s'installe sur votre ordinateur, mais ça ne finit pas là. Il y a un espion de touches, de frappes de clavier, donc vos codes d'accès, vos noms d'utilisateurs, vos données bancaires. Et pendant que vous faites un café, eh ben ça consulte votre site internet, votre compte en banque, et puis l'argent est transféré à Saint-Pétersbourg. Voilà, ça c'est un Troyen, si vous ne l'avez pas reconnu. Alors avec ce type de choses qui se produisent, et avec le flux toujours plus rapide, toujours plus énorme d'hébergement, et le fournisseur d'hébergement, lui, est de moins en moins responsable. Les registraires n'avaient pas pour intention de faire cela. Et personne n'avait pensé qu'un jour il devrait réguler ces activités. Mais ce sont les seuls à... Et ça, il faut que ce soit pris en compte et rapidement. Le nombre de domaines qu'ils enregistrent, milliers et des milliers le plus souvent. Mais un registraire a besoin d'une journée pour fermer un domaine. Ils ont 365 jours dans une année et... Vous connaissez le nombre d'enregistrements. En quelques minutes, vous pouvez enregistrer un domaine et l'avoir en ligne en accès. Et des semaines, parfois, pour certains registraires, pour fermer un site. J'ai dit certains registraires. J'ai eu le privilège, il y a quelques semaines, j'ai assisté à un sommet de registraires. Certes, à Scottsdale, en Arizona. Certains veulent faire les choses bien et je les félicite pour ce qu'ils font déjà. Mais les registraires dont on parle ici ne sont probablement pas dans le monde occidental. Il y a beaucoup de gens qui acceptent de l'argent, de criminels, travaillent étroitement avec eux et la crédibilité de l'ICANN dépend de sa capacité à traiter de cette menace et rapidement. Parce que ils ont des moyens de contourner les procédures d'application de la loi que l'on a à l'heure actuelle. Un autre exemple. On a entendu certains services de confidentialité qui ont des adresses erronées. Certains aux mains d'enregistreurs en disant pas de, de courrier postal accepté, et puis vous téléphonez, c'est un message enregistré, c'est une boîte postale. Bon, est-ce que je dois compter ? Mais c'est un abus évident. Alors, la Russie et quelques autres pays, tous ces registraires, le RAA, en disant qu'ils fermeront des domaines dans certaines circonstances, mais certains pays, dans certains pays, ils ne peuvent pas le faire. Ils signent le RAA de façon frauduleuse. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas respecter les dispositions du RAA. Pourquoi est-ce qu'on continue ? Dans le nouvel RAA, il doit y avoir une déclaration disant que le secrétaire du RAA ne peut pas se réfugier derrière la juridiction pour ne pas respecter le RAA. Allez, les services, oui, certains, oui, les bloquent. D'autres disent, oh bah, pour en avoir 5 aujourd'hui, 5 demain. Non, c'est pas bon pour un enquêteur. Et si vous examinez les certains cas de Pouriel, eh ben vous devez pouvoir faire un whiz des centaines de fois très rapidement. Alors certains registraires les bloquent, et on sait très bien pourquoi ils le font. C'est pas que ça ne peut pas être solutionné, c'est pas une situation impossible. Regarde ce que fait John avec forbiz.biz. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de leur plan de développement que de faire les choses correctement. Et nous, nous ne voyons pas pourquoi tout autre TLD devrait décider de se comporter différemment. C'est vraiment une question de plan d'activité. Si nous avons un système pour respecter les règles, qui a la capacité de dire « registraire un tel n'a pas respecté ses obligations concernant le domaine Z, eh bien nous allons fermer le domaine Z et nous envoyons la facture au registraire concerné. » Ça va déjà calmer certains. Et puis un dernier commentaire. On ne peut pas s'attendre aux agences de respect de la loi de tout faire. Ils ont un budget très limité, un personnel très limité. Ils sont extrêmement compétents, mais ils sont peu nombreux. Nous faisons de notre mieux pour aider. Mais il est important que la communauté dans son ensemble soit capable de communiquer avec les registraires, notifier les problèmes aux registraires et qu'il y ait des actions que l'on laisse les agences gérer des poursuites en justice, ce qu'ils peuvent très bien faire, mais ils ne peuvent pas tout faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaidoyer très fort pour des normes obligatoires. Alors, je sais que vous êtes des ce qu'on appelle des white hats. Des normes obligatoires. J'ai pas saisi l'ensemble de la question. Est-ce que vous voulez répondre à cette intervention ou est-ce que vous voulez laisser cela comme un plaidoyer pour des normes minimales ? Vous parlez du rapport ? Ah, ce que vient de dire l'intervenant ? Non, je crois que pour l'instant, on va laisser ça. Barbara Olson de New John. Je veux savoir si certains d'entre vous ont connaissance de la décision de la cour d'appel au mois d'octobre dans l'affaire Colbright, les services de confidentialité. Disant que le matériel de falsification des enregistrements en route peuvent signifier que vous êtes en train de prester un service et que vous êtes ne respectez pas la loi. Donc le matériel falsifié peut être utilisé. Et ça, il faut en traiter très rapidement. La plupart des gens ne saisissent pas ceci. Mais vous êtes responsable juridiquement, en dehors de tout débat qu'on peut tenir. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire, de cette décision ? Est-ce que vous avez pris en compte tenu de vos priorités ? Bon, c'est une affaire américaine, c'est ce que j'allais dire. C'est très utile pour le monsieur du FBI à ma gauche. Mais pour moi, au Royaume-Uni, ça ne m'aide en rien. Il y a une opportunité pour utiliser des termes et conditions mondiaux et d'avoir un régime mondial qui peut couvrir tous et toutes les situations. Le problème, c'est que sans cela, on va avoir des législations disparates de par le monde. Et les gens qui opèrent dans plusieurs pays avec plusieurs juridictions, ben ça va être une situation très difficile parce qu'on sait, on sait pas quelle législation va s'appliquer. Oui, aux États-Unis, il y a un certain nombre de choses dans la législation. Alors ici, le problème, c'est qui preste les services et la fiabilité des données. Oui, aux États-Unis, on a connaissance de ça. Et on est en train d'analyser la chose. Merci. Andy?
Thank you. Wendy Seltzer here.
Wendy Seltz. Conseil GNSO, groupe des acteurs non commerciaux. Je m'exprime en mon nom, même si certains endosseront aussi mon point de vue. Je m'exprime pour les, au nom des registraires légitimes des gens qui veulent pouvoir s'exprimer librement sur Internet pour critiquer leur gouvernement, critiquer les détenteurs de droits de propriété intellectuelle qui profitent de certains havres, en toute légalité, toutes ces situations-là. Les activistes en Iran qui tentent de soutenir la révolution verte avec des sites internet pour la communication entre groupes, des gens qui veulent s'exprimer mais ne veulent pas identité dans des endroits où il y a des gouvernements répressifs ou des opposants et aux États-Unis d'où je viens. Il y a les droits du premier amendement de s'exprimer à titre anonyme. Et de par le monde, on a droit à une confidentialité, de ne pas avoir nos informations personnelles divulguées à tout venant dans des banques de données, au travers d'un petit voile très fin, des services d'hébergement ou autre, et qui ont le droit de se rendre et qu'il y ait des processus avant que les protégeant contre la divulgation abusive de leurs données personnelles. Alors les éléments qui sont hautement prioritaires, cette liste semble imposer une responsabilité intermédiaire au registraire et ce n'est pas adéquat. Pendant longtemps, j'ai mené à bien le projet Clearinghouse. Le courrier était adressé au sujet d'activités Internet, adressé souvent aux intermédiaires tels que Google, qui héberge les services de blog. Et ceci aboutissant à la fermeture par les intermédiaires. Parce que c'est une solution rapide, sans risque d'esquiver la responsabilité et permettant ainsi aux plaignants et à l'utilisateur final permettre à l'utilisateur final de répondre à la plainte, bah c'est coûteux pour l'intermédiaire. Et cette la responsabilité de l'intermédiaire, alors même avec la législation américaine, avec les droits attribués aux hébergeurs d'IP, lieu à des préoccupations. Imposer des obligations sur les registraires va rendre l'hébergement de propos un peu en opposition coûteux. Est-ce que le coût d'héberger de telles expressions ou propos, est-ce que cette possibilité va être remise en cause parce qu'elle deviendrait coûteuse? Est-ce qu'il y a un moyen de solutionner cela? Imposer des procédures de divulgation des données par certains avec certaines conditions. Il y a des façons de traiter de ces problèmes. Les gens peuvent demander à un avocat d'enregistrer un nom de domaine, mais aucun de ces amendements ne semble prévoir le fait qu'un avocat doive s'enregistrer comme serveur mandaté pour ensuite enregistrer des noms de domaine pour des tierces personnes ou parties. On est en train de mettre en place un régime qui est biaisé à l'encontre de cette communauté non commerciale qui s'exprime et veut s'exprimer sur Internet. Et ça, ce n'est pas repris dans les propositions d'amendement que l'on évoque. J'espère que cela va susciter beaucoup de nombreux commentaires du public quant à cette direction que l'on ne veut pas voir le RAA prendre. Merci. Merci Wendy, vous avez soulevé énormément de questions très importantes. Je souhaite simplement dire deux choses. Premièrement, pour ce qui est des enregistrements mandatés, il n'y a pas de proposition ici, je pense. Je sais que ce rapport vient d'être publié, tout le monde n'a pas encore eu la possibilité de le lire exhaustivement. Il n'y a rien ici quant à imposer de nouvelles responsabilités. Les registraires de GTLD pour chaque enregistrement. Et il y a une disposition dans le contrat liant les deux parties, donc l'ICANN et le registraire. Eh bien, il y a déjà une responsabilité engagée à 9 au titre de l'accord. Et quand il y a des preuves de comportement malveillant, les données du détenteur de la licence doivent être divulguées. Il faut faire en sorte que les obligations soient suivies. Ce qu'il n'y a pas dans ces recommandations, c'est l'idée de l'accréditation d'enregistrement proxy. Mais ça fait partie des propositions des agences d'application de la loi. J'encourage tout le monde à examiner les recommandations spécifiques et on attend avec impatience les commentaires publics. Merci Steve. D'autres commentaires ? Oui, je vous en prie. Vous ne trouverez personne dans ce panel ou dans cette salle qui est en désaccord avec les libertés d'expression, le droit démocratique des gens de s'exprimer. Ce que nous suggérons, l'enregistrement proxy doit être accrédité afin que l'on puisse pourchasser les criminels, pas les gens qui veulent exercer leur droit à la libre expression. Il n'y a aucune suggestion dans les amendements considérés, un enregistrement d'un registraire qui doit fournir cela en dehors d'un processus déjà clairement défini et suivi.
No, I would agree. I mean, obviously.
Non, je suis d'accord. On veut protéger la liberté d'expression. Le problème que l'on a avec les services proxy, je peux citer mes collègues, il y a énormément d'activités criminelles dans ces services proxy. Il y a des cas en cours, des cas de menaces à la sécurité nationale, des réseaux zombies, de la pornographie infantile, du hameçonnage. Et les criminels utilisent cela. Et on n'est pas en notre travail, c'est pas de protéger les criminels. Donc voilà, je mentionnerai ceci. Alors on a encore une question d'une personne qui suit les débats en ligne. Et on va donc prendre une question de ce côté de la salle. Modérateur, est-ce qu'on peut faire un point de suivi ou... Oui, si c'est très bref, 45 secondes. Sans micro, une précision. On se plaint des entreprises commerciales, pas des individus. Ce sont des activités, des acteurs distincts. Les gens par le biais d'activités commerciales, avec les pourriels, bah c'est des entreprises, c'est pas des individus. Et ça, c'est une différence très importante. Oui, on a ça dans nos recommandations pour un meilleur respect de la loi. Philip Shepard, l'Association européenne des marques. Un commentaire très sage de Paul Hobe m'invite à réagir. Il a dit que la cybercriminalité et les questions de fraude constituent un défi à tous les gouvernements du monde. Oui, je viens d'une industrie qui représente bien des activités différentes. Alors, ils sont menacés parce qu'ils ont la bonne marque et les bons produits. Et puis, ils ont à gérer des complexités héritées de législation pour la protection du consommateur héritées du siècle dernier, ce qui signifie que avoir une activité commerciale ce siècle et dans le monde est extrêmement complexe, c'est très, très coûteux. Nous sommes une nouvelle industrie. On ne veut pas souffrir de la fragmentation héritée du passé. Mais on est sur le point de voir des législations incompatibles, imposant des coûts très onéreux à l'industrie et en même temps voir l'activité des registraires extrêmement complexe. Vous avez l'opportunité de diriger les choses et de les faire bien à ce stade et faire ce qui relève du bon sens dans ce domaine. Et en parallèle, avoir des groupes de travail. Mais je vous invite à faire preuve de prudence. Si vous... On ne vous demande même pas de faire la bonne chose, on vous demande de faire la chose qui est la moins coûteuse pour votre activité. Merci, Philippe. Oui, je suis d'accord avec une part de ce que vous avez dit. Toutes les préoccupations évoquées ici sont toutes pertinentes et je suis d'accord avec vous que il faut faire le nécessaire au sein de l'ICANN pour traiter bien de l'industrie et sans faire subir les coûts aux consommateurs. L'idée d'imposer des obligations ou des coûts aux registraires, c'est pas quelque chose que nous souhaitons. Je suis d'accord, il y a le danger de certaines conséquences, des nouvelles législations qui protègent le consommateur, mais qui rendent le tout beaucoup plus confus. Les registraires veulent des outils disponibles pour coopérer avec les agences de répression pour poursuivre les criminels. On veut faire ceci de façon équilibrée. Afin de ne pas enfreindre les droits des registraires ou et sans imposer un fardeau excessif à l'industrie. Merci, allez-y.
Merci, je m'appelle Katitza Rodriguez. Je suis membre du regroupement des utilisateurs non commerciaux. Je parle ici en mon nom personnel, mais je pense que bon nombre des membres de mon regroupement sont d'accord avec la proposition. On nous a dit que cette proposition ciblait la lutte contre la pornographie infantile, le terrorisme et d'autres menaces et d'autres délits. Nous avons des préoccupations par rapport à ces délits, c'est clair. Mais la proposition qui est sur la table, donc les propositions d'amendement au RAA, comprennent d'autres dispositions qui affectent tous les utilisateurs, y compris les personnes innocentes qui ont enregistré un nom de domaine. Alors cette proposition, par exemple, contient des dispositions de rétention de données qui encouragent la création d'un processus pour la collecte et le stockage de toutes les informations relatives aux registrants, même des informations, même pour les personnes innocentes, pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec le service en question. Par exemple, la collecte des adresses IP, des données par rapport au navigateur, ainsi que des données sur les services qui sont rassemblés par le processus d'enregistrement du domaine. L'article 29, je suis désolée, elle parle vite et même la personne responsable de la transcription la trouve inaudible. Donc les interprètes ne peuvent pas en faire grand-chose. Ça signifie que les données personnelles sont soumises aux lois européennes sur le respect de la vie privée et ainsi qu'à d'autres législations en Asie et en Amérique latine. Alors, une expérience intitulée Panopticlet montre que la grande majorité des utilisateurs Internet pourraient être repris dans un registre d'empreintes digitales en utilisant seulement la version de certains navigateurs disponibles sur le site web. Ce type d'information système devrait être considéré comme identifiante et par conséquent protégée de la même manière que les adresses IP. Je pense que le rapport doit tenir compte des limites des règles, les obligations que le registrant doit avoir dans la collecte d'informations personnelles, par exemple les normes internationales concernant la vie privée, comme les données européennes, la protection des données européennes, ou les directives de l'OECD concernant la vie privée. Nous avons entendu une proposition que, par exemple, il y a des lettres qui proviennent des agences responsables du respect de la loi dans ces collectes d'informations, mais il n'y a pas d'appel à des commentaires de la part des autorités responsables de la protection des données, même pour le Conseil de l'Europe en tant qu'organe. Juste un résumé des conclusions d'une réunion. Je pense que nous parlons ici de la collecte et de l'enregistrement de données personnelles concernant tous les registrants de noms de domaine. Je pense qu'il y a des défis que vont devoir relever les responsables de l'application de la loi. Donc, quelques brefs commentaires. Je suis d'accord avec votre opinion sur le fait que la protection des données doit être respectée. Et je n'ai absolument pas omis ce facteur dans mes commentaires. Je pense que c'est encore un travail en cours. Nous n'avons tiré aucune conclusion. Nous avons simplement dit que les préoccupations des agences responsables de l'application de la loi sont tout à fait valables à ce stade. En même temps, nous disons qu'au niveau de l'Union européenne, nous sommes préoccupés aussi par la protection des données et nous devons adopter une approche équilibrée. C'est notre position. Alors, si c'est votre demande, ne vous inquiétez pas, nous nous en préoccuperons. Merci beaucoup. Merci, Steve. Moi, je voulais mentionner quelque chose, je vais le répéter. Le rapport initial a été posté pour recueillir les commentaires publics et il y a même les propositions des autorités judiciaires dans une annexe et ce sera inclus dans les enregistrements des commentaires. Donc les déclarations que vous avez faites seront enregistrées. Donc ça fait partie du processus, c'est un dialogue permanent. Alors, il y a une question de Jorge. Comment pensez-vous traiter les CCTLD qui aident les escrocs, les CCTLD qui n'ont pas de contrat avec ICANN et qui n'auront pas de contrat avec ICANN? C'est une très bonne question. Parce que certains de mes collègues au bout de la table vous diront que les registraires travaillent sur des marges fines comme du papier et certains registraires sont obligés de faire ça, alors d'autres obtiendront un avantage commercial. Bobby et moi, nous parlerons CCNSO le plus tard dans la semaine, mais certainement pas pour suggérer que le CCNSO prennent cela en charge, mais ces suggestions sont ressortent de la bonne pratique pour l'ensemble du secteur. Elles visent simplement les GTLD. Nous ne voulons pas distinguer les GTLD, mais c'est l'opportunité qui est devant nous de présenter ces propositions à ICANN. Si ces propositions sont adoptées par les nouveaux GTLD, ce sera la première étape dans tout ce processus. Moi, je voulais simplement ajouter dans nos contacts avec les forces de police nationales des différents pays, nous encourageons également à traiter directement avec leurs CCTLD pour assurer qu'ils soient vraiment engagés dans des bonnes pratiques. En ce qui nous concerne, Nous sommes un registraire et nous traitons avec des GTLD, mais c'est jusqu'à assez récemment, le gros de notre activité portait sur les CCTLD. Alors un fait de base, c'est que c'est évident qu'il y aura de la fraude en ligne, il y aura des délits en ligne. Du point de vue des registraires, nous ne voulons pas que les gens utilisent des fausses cartes de crédit, des comptes PayPal faux, falsifiés en utilisant les détails de contact, les données de contact de tiers. Tout cela parce que ça nous donne de la migraine et finalement, ça a un impact négatif sur nos activités, sur nos résultats financiers, sur la réputation de nos sociétés. La dernière chose qu'un registraire raisonnable souhaite, c'est d'être connu comme refuge pour les délinquants, qu'ils fassent de la contrebande en GTLD ou CCTLD ou autre. Finalement, je veux dire que il faut simplement définir des adresses IP qui soient incompréhensibles pour un cerveau humain. Il y a des préoccupations par rapport au respect de la vie privée. Il y a des préoccupations par rapport au respect des données. Simplement parce que l'ICANN n'a pas un impact direct avec ce qu'on pourrait faire avec les CC. Ne pensez pas que à l'intérieur de la communauté des registraires, nous ne le ferons pas. Ceux d'entre vous qui veulent placer une commande par notre site web seront probablement remis en question parce que vos commentaires, votre adresse IP pourrait sembler venir de quelque part, d'un endroit que nos vérifications contre la fraude pouvaient considérer comme être douteuses. Et nous allons vous demander de vous identifier et de valider votre identité. Mais il faut rester pragmatique. Beaucoup d'orateurs ont mentionné les problèmes liés aux registraires avec des pays où, dans des pays où, disons que les cadres sont un peu plus ouverts et moins susceptibles d'aider les responsables de l'application de la loi à faire leur travail. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent et assurer que tout le monde travaille ensemble. J'adore l'idée selon laquelle les registraires peuvent travailler, sont capables de travailler avec les responsables de l'application de la loi. Parce que comme Mason l'a dit, le RAA est un contrat. La cyberdélinquance change et se met à jour très, très rapidement. Les personnes de Spam House pourraient en parler. Ils utilisent différents vecteurs, ils utilisent différentes méthodes. Si vous mettez quelque chose dans un contrat, ça prendra des années pour que ce soit modifié. Ça prendra beaucoup trop de temps. Et ça bouge beaucoup trop vite. Finalement, c'est nous, dans la communauté des registraires, nous pouvons travailler avec la police et les autorités judiciaires. Pourquoi pas? Bon, je viens de At Large et j'ai co-présidé le groupe A avec Michele. Alors, tout d'abord, je pense que nous devons essayer de tirer les leçons de la genèse de tout ce groupe. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, en principe, mais ce serait bien si le processus, la prochaine fois, avec un peu plus de sens pour tous, nous nous sommes retrouvés dans le groupe A. En gros, nous nous sommes trouvés face à des difficultés. Le groupe B a certainement eu des difficultés aussi, mais le gros de notre travail dans le groupe A, c'était de faire en sorte que les RAA soient formulés dans un langage qui pouvait être compris. Et pour le prochain RAA, je pense que nous devrions vraiment avoir un document qui décrit les aspirations. Le RAA est un contrat avec les clients et les utilisateurs finaux. Donc ce que ces gens veulent voir dans ce document, ce ne sont pas des aspirations. Il faut que ce soit étoffé. Je ne critique personne. Je dis simplement que nous devons repenser tout cela si la confiance et la transparence sont des valeurs, doivent être des valeurs que nous voulons vraiment adopter dans nos documents. Et Je voulais dire aussi que ces groupes de travail doivent inclure les gens de la communauté at large et nous voudrions y participer. Moi, je viens d'un point de vue très fort lié aux autorités judiciaires. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me demandent si je peux les aider avec ceci, avec cela. Donc, moi, je suis très en faveur de donner de l'aide aux autorités judiciaires, mais nous devons avancer tous ces groupes. Nous devons travailler avec tous les groupes qui sont mieux au courant. Nous, dans la communauté at large, dans la communauté des utilisateurs, nous préférons être à la fin de la liste des 10 articles principaux, des 10 points principaux qui doivent être pris en considération par le GNSO. Voilà. Ce que nous voyons ici, c'est les avantages des bons dialogues, les avantages d'avoir discuté de pas mal de choses auparavant et d'avoir pu partager des connaissances. Alors, vous nous allons entendre la dernière question. Nous allons clôturer. Ah, vous avez déjà parlé, excusez-moi. Merci, je suis Osbin d'Indonésie. Je vais essayer de parler en mon nom personnel. Je vais être aussi bref que possible. Je suis la dernière personne entre vous et le dîner. Mais il y a quelques points que je voudrais mentionner ici. Alors ce matin, j'ai vu la télévision, nous avons vu le marais noir aux États-Unis. Alors, c'est très bien d'augmenter la production du pétrole si on peut gérer la sécurité, parce que sinon on générera beaucoup de pollution. Et c'est la même chose avec l'Internet. Nous pouvons augmenter les activités, nous en discutons depuis longtemps, du moment qu'on peut gérer la sécurité de ces activités, parce que sinon on peut effectivement développer les activités commerciales sur Internet, mais surtout contribuer à augmenter la criminalité sur Internet, à l'image des marées noires auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, parce que nous avons nos désirs d'exploitation du pétrole ont dépassé nos exigences et notre capacité en matière de sécurité. Alors, ceci dit, nous devons nous souvenir aussi que l'Internet est utilisé au niveau mondial, aussi bien par les pays moins développés, ainsi que par des pays hautement développés. Alors, si le FBI aux États-Unis, un problème, pouvez-vous imaginer auxquels sont confrontés les pays moins développés? On voit toujours dans les films comment le FBI utilise la nouvelle technologie, les nouvelles technologies. Alors, imaginez cela dans les pays moins avancés. Ils n'ont même pas d'ordinateur, ils n'ont pas de système informatique. Un ordinateur est difficile à trouver dans ces pays-là. Moi, je pense que les amendements visant à réduire la criminalité doivent être mis en œuvre dès que possible. En tout cas, moi, je dois pouvoir savoir avec qui je communique sur Internet. Donc, j'espère que dans la réunion de demain, que notre association de registraires mentionnera la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour trouver une solution pour identifier qui vous êtes sur Internet, un chien, un chat ou qui que vous soyez. Alors, finalement, c'est juste une question de manière de penser. Alors, si l'organisation, dans le cas de la... Si l'organisation mondiale responsable du pétrole et des pollutions du pétrole ne peuvent pas trouver une solution, alors le président Obama va certainement trouver une solution. Sinon, ça va nous poser un problème d'aller aux États-Unis parce que les États-Unis vont être trop pollués, etc. Et c'est la même chose pour Internet. Si notre organisation mondiale trouver un moyen de réduire la criminalité sur Internet, alors je veux dire le pays qui est confronté au problème de ses activités délictuelles le feront. Et cela ne marchera pas. Nous devons le faire ensemble, nous devons travailler ensemble. Je voudrais que ces amendements soient acceptables pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Je crois que travailler ensemble, c'est exactement ce que nous voudrions faire pour en tirer tous des avantages. Jean-Christophe de EuroDNS, membre du groupe des registraires. Je parle en mon nom personnel. J'ai la chance de travailler à partir d'un petit pays, le Luxembourg, ce qui signifie, entre autres, que je connais par leur prénom tous les responsables des autorités judiciaires et qui s'occupent du hameçonnage et de cybercriminalité. Alors, cela fait que nous pouvons avoir des échanges, que je peux avoir des échanges avec eux, je peux les aider à comprendre quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que registraire. Et contrairement à ce qui était dit auparavant, nous n'essayons pas du tout d'aider les délinquants, nous essayons plutôt d'aider les autorités judiciaires dans la mesure de nos moyens et d'assurer le respect de la loi. Malheureusement, c'est que le problème, c'est que certains d'entre nous ne peuvent pas profiter de ce luxe. Et je voudrais dire que dans la plupart des cas, nous ne sommes guère soutenus dans la lutte contre la criminalité. Au contraire, nous sommes confrontés à des problématiques juridiques contradictoires. Un exemple, c'est la vie privée. Vous avez mentionné les services privés qui, évidemment, peuvent être réglementés parce qu'il s'agit d'entreprises privées. Le problème que nous voyons en Europe, c'est que la vie privée, quelquefois, est garantie par les organes responsables de l'exécution de la loi. Nous sommes très souvent confrontés à des registres qui imposent des règles très strictes concernant le respect de la vie privée, qui semblent protéger des personnes malveillantes, alors qu'en fait, nos mains sont liées, nous sommes pieds et poings liés à cause des réglementations en vigueur. Alors, c'est toujours bien de dire que les registraires doivent aider les autorités judiciaires et que le RAA doit être adapté pour contribuer à cette situation, mais je pense que le cadre juridique devrait peut-être commencer le processus. Moi, je voudrais apporter mon aide dans la mesure de mes moyens, mais je voudrais aussi ne pas être... je ne voudrais pas me retrouver dans une situation intenable avec, d'une part, les autorités responsables du respect de la vie privée et, d'autre part, les autorités judiciaires, entre l'enclume et le marteau. Tu as raison, j'y sais, quelquefois, effectivement, les registraires sont pris en étau entre différentes législations, différents règlements. Notre registraire a des activités en Europe aussi. Nous ne sommes pas centrés sur l'Europe, mais je sais que Michel pourrait peut-être probablement donner davantage d'informations à ce sujet, mais c'est effectivement le type de problème de législation contradictoire confrontée, le respect des consommateurs, l'intérêt des opérateurs commerciaux. Michael, tu en sais peut-être plus que moi. Le problème, c'est que tu as couvert un bon nombre des points pertinents. Le problème, c'est que nous voulons très souvent, c'est qu'on essaie de quelque chose que j'ai déjà mentionné en passant. Mais l'idée, si quelqu'un veut enregistrer un domaine, utiliser ce domaine, comme Wendy l'a mentionné, c'est un problème de liberté. Nous avons vu cela se produire avec nos clients par le passé. Lorsque quelqu'un essayait de museler l'un de nos clients en disant qu'il faisait quelque chose d'illégal et en disant que c'est illégal, alors tout ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent une excuse pour les faire taire parce qu'ils ont dit quelque chose qu'ils considèrent comme inacceptable. Et ça, c'est encore gentil. Mais en tant qu'entreprise située dans l'Union européenne, nous devons respecter les lois concernant le respect des données. Quelqu'un a proposé l'idée de plainte déposée aux États-Unis de la part de la communauté, mais je suis désolée, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prendre, accepter une plainte venant d'un tiers de quelque part. Je ne peux se dire que de la part de quelqu'un à qui je peux faire confiance. Donc l'équilibre est difficile à atteindre. Je crois que le problème, c'est que les départements juridiques des entreprises sont dans des situations très délicates et au cours de ces dernières journées, Nous avons entendu très souvent qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'encontre de la protection des données, qui ne respectaient pas les lois sur la protection des données. Alors on parle volontiers de la violation de la législation européenne sur la protection des données sans avoir examiné les pleines conséquences et tous les détails de cette législation. Je voudrais que tu répondes parce que c'est un domaine difficile. Et effectivement, comme je l'ai dit, nous devons toujours essayer de trouver un équilibre. C'est vrai, c'est difficile. La protection des données va rester. Ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir contourner. Aujourd'hui, nous soutenons les préoccupations des agences responsables de l'exécution de la loi. En même temps, nous disons oui, la protection des données doit être respectée, mais il n'y a pas de formule magique. Je ne dis pas que nous devons penser à un aspect de la question sans respecter l'autre. Nous devons trouver un équilibre, mais c'est un travail en cours et qui commence aujourd'hui. Nous ne faisons que commencer. Maintenant, nous avons vraiment besoin d'entendre les tout derniers commentaires. Nous devons mettre fin à cette discussion.
Paul Ian Mason. Alors, l'Internet est quelque chose qui évolue très, très rapidement. Est-ce qu'on a fait avec des processus en Russie, eh bien, il faut voir que ce qu'on met en place aujourd'hui sera complètement obsolète dans 4 ans. Alors, la coalition contre la pornographie infantile a dit qu'en 2005, il y avait 5000 images de 200 enfants victimes. En 2010, il y en a 10 millions, avec un nombre des millions de photos et des milliers d'enfants victimes. Donc, il faut vraiment une réaction très rapide. Mason ? Oui. C'est un peu une simplification quand on parle de ces périodes de 4 ans, même si un accord n'expire pas d'ici là. L'ICANN peut et a, avec succès par le passé, offert des incitants aux registraires pour se mettre en conformité avec l'accord. C'est un point tout à fait justifié. Je pense que Paul soulève un point tout à fait valable. Il y a des moyens, en tout cas, pour lutter contre ce problème si on ne parvient pas à l'éliminer. Je suis d'accord, Paul, avec l'augmentation de la cybercriminalité. On l'a constaté dans nos activités, en observant l'Internet en général. Au sommet des registraires, il y a quelques semaines, on a vu des statistiques extrêmement perturbantes sur la criminalité en ligne, notamment le mauvais traitement enfance. C'est épouvantable. Hein. Il doit y avoir un mécanisme pour traiter du crime qui se développe de façon très rapide. Alors ça peut ou pas être en coin lié au RAA. Je ne connais pas la bonne réponse. Je n'en suis pas certain. Mais j'apprécie que l'on ait cette discussion, c'est un début. Et on aimerait trouver un moyen d'aider les agences de répression à lutter efficacement contre le crime. J'aimerais maintenant demander à l'audience de remercier les panélistes et tous les intervenants de la salle parce que vous avez été aussi des panélistes cet après-midi. Merci à tous. And just in a et nous avons des appels à la prudence, des appels à changer de direction, des appels à faire marche arrière. Dans l'ensemble, je pense que ce n'est pas dû à la confusion. C'est une indication que nos débats ne doivent pas se centrer exclusivement sur une direction. Et il y a l'intention ici d'identifier des moyens de parvenir à des solutions. Et l'une de ces discussions est dans le rapport initial que l'on peut trouver sur le URL que vous voyez à l'écran. Et je vous encourage tous à trouver le temps
Les commentaires publics se terminent le 9 juillet. Ça fait partie d'un dialogue. C'est une étape de ce processus. Merci à tous. Merci beaucoup à la personne qui reprend le procès verbal et les gens qui ont fait des heures supplémentaires pour être encore dans cette salle, ainsi que les interprètes. Merci beaucoup au panel. Merci à tous.